Alors, imaginez que vous êtes à l'Arc de Triomphe à Paris. Vous montez en haut du monument et vous regardez la ville en dessous. Comme vous le savez, il y a un grand rond-point qui entoure l'Arc de Triomphe où convergent 10 ou 12 rues. Et je pense que Pascal n'aime pas ma prédication déjà. Mais c'est pas grave. En fait, à l'Arc de Triomphe, à ce rond-point, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar en termes de circulation. Avec une centaine de voitures tout en train d'entrer et de sortir en même temps. Chaque rue va dans une direction différente. C'est un véritable chaos. C'est horrible. Alors, maintenant, imaginez que vous êtes dans ce fameux rond-point et que vous êtes obligé d'aller à la grande arche de la Défense. Quelle route allez-vous choisir? On a beaucoup de choix. Vous avez tout un éventail de possibilités, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre l'avenue Marceau, l'avenue des Champs-Élysées, ou l'avenue Camus, ou beaucoup d'autres possibilités. Que faites-vous? Bien qu'il y ait un grand choix de chemin et plusieurs routes intéressantes, il y a seulement un bon chemin pour arriver à la Grande Arche. La seule route qui mène à la Défense est l'avenue de la Grande Armée. Où vont les autres routes? Dieu seul le sait. S'orienter sur la route n'est pas évident, n'est-ce pas? Mais on a des soucis pires que ça, beaucoup pires que ça. La grande question que nous devons nous poser, c'est la suivante. Comment s'orienter spirituellement dans la vie? Vous voyez, trouver Dieu, c'est un peu comme s'orienter dans Paris. Il y a plusieurs possibilités qui nous sont proposées dans ce monde. Mais tous les chemins ne mènent pas à la même destination. Dans notre texte aujourd'hui, Jésus répond à deux questions importantes concernant notre itinéraire spirituel. Ces deux questions sont « Où allons-nous ?» et « Comment y aller ?» Nous allons étudier donc Jean chapitre 14, versets 1 à 14. Jean chapitre 14, versets 1 à 14, pour voir ce que Jésus dit à propos de ces questions. Je vais lire le texte. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, « Montre-nous le Père » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lumière qui nous guide. Que ta parole, Seigneur, habite en nous dans toute sa richesse pour que nous apprenions ta vérité et vivions dans tes promesses. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Avant de partir en voyage, il est important de choisir sa destination. Parce que sans destination, on erre sans but, n'est-ce pas? Avant tout, dans ce texte, Jésus nous parle d'une destination. Voici ce qui se passe. Les disciples sont troublés. Pourquoi? Parce qu'un des disciples, Judas, vient de trahir Jésus. Un autre disciple, Simon-Pierre, le rocher parmi les autres, va renier le Seigneur conformément à la prédiction de Jésus. Et Jésus sera bientôt arrêté et crucifié. Ce n'est pas du tout encourageant pour les disciples. Et bien que Jésus ait toutes les raisons du monde d'être découragé, c'est lui qui réconforte ses disciples en leur donnant un rendez-vous extraordinaire dans la maison du Père. « Croyez en Dieu, dit Jésus. Croyez en moi. Mettez votre confiance en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et je vous en prépare une. » Imaginez votre vie sous la forme d'une carte routière. Jésus en souligne tout de suite la destination, la maison du Père. La maison du Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la maison du Père? Comment cela réconforte-t-il les disciples? En fait, Jésus donne quatre promesses concernant la maison du Père dans ce texte. D'abord, quand Jésus parle de la maison du Père, il communique l'espérance. Si la maison appartient au Père, à combien plus forte raison serons-nous heureux d'y aller? Ensuite, Jésus promet à ses disciples qu'il y aura assez de place pour eux dans la maison du Père. Il y a une abondance dans la maison du Père. Donc on a cette idée de l'espérance, on a l'idée d'une abondance de place, et on a la présence de Jésus aussi. C'est la troisième chose. On apprend aussi que la maison du Père est également la maison du Fils. Le Fils Jésus est présent dans ce lieu. Les disciples vont voir Jésus de nouveau. Et enfin, le mot « demeure » implique une permanence. Donc on a l'idée de permanence. Les disciples demeureront dans la maison du Père. Ce n'est pas juste une visite, ok? C'est important de comprendre que la maison du Père n'est pas le temple, c'est pas une synagogue, ni une église, mais c'est le ciel. C'est le ciel. La destination dont Jésus parle, c'est l'éternité avec le Père. Et en tant que disciples de Jésus, nous pouvons nous être certains que la destination promise par Jésus est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Imaginez que vous lisiez une publicité pour une croisière en Méditerranée. Elle vous promet une mer d'huile, une eau limpide, un ciel bleu et des belles plages de sable fin. Vous pourrez manger des crevettes à volonté, dormir dans une cabine confortable, profiter de formidables divertissements chaque soir et visiter les plus belles villes portuaires d'Espagne, de France, d'Italie et d'autres pays. Alors, vous vous dépêchez d'acheter votre billet parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en vacances. Vous faites vos valises, vous montez sur un beau navire qui s'appelle le Costa Concordia. Et deux jours plus tard, le bateau heurte un gros rocher sous la mer, il coule et vous mourrez. Fin de l'histoire. Ce que la publicité vous avez promis n'est pas devenu réalité, n'est-ce pas? Le beau voyage a mal tourné. La destination paradisiaque est devenue une destination funeste. Par contre, Jésus nous promet une belle destination, une destination merveilleuse, certaine et éternelle dans la présence de Dieu. Nous pouvons nous fier à la publicité de Jésus, si vous voulez, dans ce texte, car il est Dieu et sa promesse est sûre. Le ciel nous attend si nous sommes ses disciples. Mais regardez encore la carte de votre vie. Nous avons la destination, la maison du Père. Maintenant, comment y aller? Au verset 4, Jésus rassure ses disciples en leur disant qu'ils connaissent le chemin. Et au verset 5, Thomas rassure Jésus en lui disant qu'en fait, les disciples n'ont aucune idée de ce que Jésus est en train de dire dans ce texte. Le texte qui suit juste après nous livre alors une des déclarations les plus fortes dans tout l'évangile de Jean concernant l'identité de Jésus. Les disciples sont perplexes, mais Jésus leur dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il mentionne trois réalités importantes. Jésus est en train de répondre à la question de Thomas dans ce texte. Et parce que Jésus répond à la question de Thomas qui concernait le chemin, on peut en déduire que le chemin est le thème principal du verset 6. C'est très important dans le verset 6. Dans un sens, l'idée de la vérité et de la vie élucide le type de chemin dont il est question. Comme le théologien Don Carson le dit, Jésus est le chemin vers Dieu précisément parce qu'il est la vérité et la vie. Jésus ne montre pas seulement le chemin à suivre. Il est le chemin. Dans quelques instants, je vais vous dire quelque chose de politiquement incorrect pour lequel je pourrais être agressé. Mais je vais le dire seulement parce que Jésus a déjà dit, ok? C'est Jésus qui a dit. Vous êtes prêts? Le chemin que Jésus propose n'est pas un chemin parmi plusieurs autres, ok? Il est le seul chemin. Il est le seul chemin possible. Il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il est la seule réponse à notre condition misérable. Il est le seul moyen d'entrer en relation avec Dieu. Dans les versets 7 à 11, nous voyons que Jésus est tellement lié au caractère et à l'activité de Dieu que si nous connaissons Jésus, nous connaissons le Père. Il est donc logique que Dieu le Fils rende possible notre relation avec Dieu le Père. C'est logique. Et en parlant de logique, cette déclaration de Jésus est une déclaration qui est souvent mal perçue dans notre monde postmoderne et illogique. Et postmoderne, ça veut dire, c'est l'idée qu'il n'y a pas de vérité absolue. Okay? Et la raison pour laquelle cette déclaration de Jésus est mal perçue, c'est parce que le monde prétend que tous les chemins mènent au salut. Tous les chemins mènent au salut, ou à la réalité ultime, on peut dire. Jésus n'est qu'un Dieu parmi d'autres. Voilà ce qu'on dit. Mais n'oubliez pas ce que Jésus dit dans ce texte. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, mon fils Kedmon est en moyenne section à la maternelle. À ce moment-là, on lui enseigne des principes logiques très basiques. Par exemple, le triangle bleu correspond à l'autre triangle bleu. Ok, c'est pas très difficile pour nous. On s'appelle ça la loi d'identité en logique. Ok, la loi d'identité. Et ça s'applique à la déclaration de Jésus dans ce texte. Si Jésus est le seul chemin, qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que Allah est le vrai Dieu. Ça veut dire que Bouddha est un des chemins qui mène à Dieu. Non, si Jésus est le seul chemin, ça veut dire qu'il est le seul chemin. On est d'accord? Le triangle bleu correspond à l'autre triangle bleu. Ok? Pas très difficile. La loi d'identité. Ok? Mais nos amis postmodernes et sceptiques protestent en disant, mais non, cela n'est pas du tout gentil. Peut-être Jésus est le seul chemin, mais Allah est un autre chemin, et l'athéisme est un autre chemin, et Bouddha nous offre encore d'autres possibilités aussi. Autrement dit, le triangle bleu correspond au carré rouge. Vous voyez le problème? On enseigne à nos enfants la logique, mais nous, en tant qu'adultes, quand on parle de religion, on croit des âneries. Dans ce texte, Jésus parle de son exclusivité. Son exclusivité. Peut-être que ce n'est pas gentil, mais la vérité n'est pas toujours gentille. Ce que Jésus dit n'est pas destiné à éloigner les gens, mais à montrer l'espérance que l'on peut avoir en lui. Je dirais deux choses pour répondre aux pluralistes postmodernes qui prétendent que tous les chemins mènent à la même destination. Premièrement, et comme je l'ai dit, Jésus parle de son exclusivité. Ça veut dire que s'il y a en fait d'autres possibilités pour le salut, alors Jésus est un menteur, ok? Mais si ce qu'il dit est vrai, alors il n'y a pas d'autres possibilités pour le salut. Jésus nous demande de lui faire confiance. Et moi, personnellement, je préfère croire ce que dit Jésus, le Dieu vivant, le Créateur de l'univers, le Rédempteur du monde et le Seigneur. Deuxièmement, les religions du monde ne proposent pas toutes la même croyance. Elles ne mettent pas en avant les mêmes idées. Elles ne mènent pas à la même destination. Par exemple, le bouddhiste croit que le paradis pour l'homme consiste à disparaître et à être absorbé dans le vide. La destination du bouddhiste et celle du chrétien n'est pas du tout pareille. Un autre exemple. L'athée ne croit pas en Dieu. Comment est-ce qu'un athée et un chrétien qui croient des choses opposées partageraient-ils le même but spirituel? C'est pas possible. Le pluraliste postmoderne présuppose qu'il connaît, lui, le bon chemin, qui inclut tous les autres chemins. Mais son présupposé est basé sur sa propre ignorance philosophique, sur son imagination par rapport aux réalités spirituelles, et sur sa peur d'offenser les gens. Son présupposé, d'après lequel tous les chemins sont bons, est basé sur une mauvaise logique qu'il a appris grâce à la télévision, je pense. Mais Jésus nous offre quelque chose de meilleur. Il nous invite à croire en lui. Il est dans le Père, et le Père est en lui. Et parce que Jésus va aller vers le Père, verset 12, nous en tant que ses disciples, nous allons poursuivre la mission de Jésus et annoncer son salut autour de nous. C'est dans ce sens que Jésus dit que ses disciples vont faire de plus grandes œuvres encore que celles qu'il a faites. Jésus, qui est maintenant exalté et glorifié, nous donne la capacité de pointer les gens vers le chemin vivant et vrai. Ce chemin est bel et bien tracé, et nous pouvons y conduire les gens avec beaucoup d'assurance. Je voudrais conclure en disant que ce texte est un appel à la mission chrétienne qu'est l'évangélisation. Dans les derniers versets, Jésus dit à ses disciples, « Vous ferez des œuvres plus grandes que ce que j'ai fait. Demandez et je le ferai. » Après que Jésus soit mort, ressuscité, exalté et glorifié, il va faire en sorte que ses disciples accomplissent ses œuvres. On ne voit pas donc l'opposition entre les œuvres de Jésus et celles de ses disciples dans ce texte. Les disciples n'ajoutent pas à ce que Jésus a déjà fait. Okay? Ce n'est pas l'idée. Au contraire, Jésus va faire des œuvres par ses disciples parce qu'il va vers le Père. Les œuvres que Jésus fait par nous sont liées à ce qu'il dit à propos de ce qu'il est. On a une mission très importante en tant que chrétien. Et Jésus nous a promis de nous aider si nous lui demandons et si nous sommes prêts à agir. Nous avons la bonne carte avec la bonne route qui est clairement indiquée et qui mène à la bonne destination. On a les bons outils pour affronter le pluralisme religieux et la postmodernité. On ne doit pas avoir peur de pointer les gens vers le chemin qui mène au salut, parce que c'est Jésus lui-même. Par sa mort à notre place et par sa résurrection qui est le chemin du ciel. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand on cherche à s'orienter, les cartes peuvent être difficiles à lire parfois, n'est-ce pas? Mais avec Jésus, on n'a pas de souci. Où allons-nous? C'est clair, à la maison du Père. Comment y aller? Par Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Jésus, notre Seigneur, nous confessons que tu es le chemin, la vérité et la vie, comme on a lu dans ce texte. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir montré le bon chemin et la bonne destination. Et nous nous rendons compte que nous avons une mission qui consiste à faire de grandes œuvres en ton nom et à pointer les gens vers la bonne destination. C'est toi, Seigneur, qui est notre espérance. Celle de vivre éternellement dans la maison du Père et dans la lumière de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.